Donc de CRESPA Laptop à Paris 8, donc des bonnes élèves en quête de reconnaissance, les professionnels espagnols de l'art contemporain expatrié, Paris, Berlin, Bruxelles.
Oui, merci. Donc Bruxelles a disparu du titre parce que c'est un échantillon très petit et en fait, en l'étudiant, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui habitent aujourd'hui ou qui ont habité par le passé à Bruxelles, maintenant sont à Paris, à Berlin, donc je les intégrais ici, ça faisait plus simple. Donc, ma communication porte sur les principes genrés des différenciations des carrières des professionnels espagnols de l'art contemporain. Ce travail fait partie de mon travail de recherche des thèses qui porte sur la mobilité internationale intra-européenne d'artistes visuels et d'intermédiaires espagnols de l'art contemporain, dans lesquels j'étudie les trajectoires professionnelles et des migrations de ces professionnels depuis l'entrée de l'Espagne en Union européenne en 1986. Il semble évident que pour les membres de l'échantillon, qui est constitué d'environ 300 individus, le choix de la ville de destination repose sur des stratégies d'internationalisation de la carrière artistique. Devant des difficultés à mener une carrière artistique à visibilité internationale depuis l'Espagne, nombre de professionnels de l'art contemporain prennent la décision d'émigrer, comme on a vu tout à l'heure dans la communication d'Alain Quémin. Nous observons ici une préférence pour les villes considérées comme centrales dans le monde de l'art contemporain, donc ce sont les grandes capitales européennes et New York. L'installation dans ces centres permet d'accumuler du capital symbolique, donc du capital international, cosmopolite et social, qui est valorisé et valorisable au sein du monde de l'art d'origine. Donc, en fait, en Espagne, les artistes qui ont vécu à l'étranger et qui ont fait une partie de leur carrière là-bas dominent la liste des lauréats des prix nationaux d'art plastique et sont plus souvent invités à représenter le pays lors d'événements internationaux plus ou moins compétitifs, comme la Biennale de Venise. Donc pour ces professionnels issus de la périphérie du monde de l'art globalisé, la migration vers les centres constitue non seulement une stratégie d'insertion dans les marchés internationaux et aussi des positionnements sur les marchés nationaux, mais c'est aussi une stratégie de gestion de l'incertitude qui est constitutive des professions artistiques. La carrière migratoire également révèle l'incertitude avec ses coûts et ses risques. Donc, dans cette optique, les choix de la ville, les modes d'insertion dans la nouvelle scène artistique locale et la possible valorisation du capital international sur la scène de départ sont déterminés par divers facteurs liés aux caractéristiques sociales des individus et parmi celles-ci, le genre. Donc, je le dis déjà, tous les membres de mon échantillon sont blancs. Donc, on peut revenir sur cette question pendant la discussion plus tard, si vous voulez. L'enquête qualitative que j'ai menée à Berlin et à Paris a permis de soulever un point qui concerne la différenciation des carrières selon le genre des individus. En effet, nous observons qu'il y a une différenciation genrée dans la gestion de cette double incertitude de la carrière artistique et du projet migratoire. La carrière professionnelle et les projets migratoires des femmes semblent s'appuyer sur un ethos de bon élève, reposant davantage sur l'accumulation des certifications et dispositifs institutionnels d'accompagnement de la carrière artistique et de la mobilité internationale. À l'inverse, la carrière professionnelle et migratoire des hommes s'appuie plutôt sur la mobilisation des réseaux informels et sur une position mieux établie sur les marchés de l'art. Dans cette communication, je vais d'abord analyser l'échantillon à la lumière de ces différents genres et ensuite je reviendrai sur la propension des filles à faire jouer tous les moyens de scolarisation disponibles au profit de leur accès à l'existence professionnelle. En Espagne, les femmes sont majoritaires dans les formations en lien avec les arts visuels, que ce soit dans la création ou dans les disciplines associées comme l'histoire de l'art, alors qu'elles ne représentent que la moitié des individus employés dans ces secteurs. Et encore, les statistiques sont un peu brouillées puisqu'il y a le monde de l'édition qui est aussi intégré. Donc on observe, c'est bien visible qu'il y a une ségrégation des genres dans l'accès à l'emploi culturel. Les femmes de notre échantillon, qui est composé de 114 individus, j'en ai rencontré plus ou moins la moitié, quel que soit leur métier, sont plus diplômées que leur père masculin. C'est surtout au niveau du master que s'est fait la différence. Deux tiers des femmes de notre échantillon sont diplômées de master contre seulement un tiers des hommes. Aussi, en outre, la carrière artistique en Espagne est balisée par les institutions publiques qui ont instauré une sorte de cursus honorum à base de concours pour les artistes et les prétendants à la carrière de commissaire d'exposition en début de carrière. Les jeunes s'élancent dans la carrière professionnelle en candidatant à des concours, des prix et des bourses qui sont destinés à soutenir leurs pratiques. Donc normalement, il y a une bourse avec de l'argent et puis une exposition avec les lauréats qui est visant la visibilité. Le plus souvent, Plus récemment, et surtout depuis 2008, avec la crise qui a touché en particulier les jeunes en Espagne, les pouvoirs publics ont mis en place des bourses de mobilité pour promouvoir leur circulation internationale. Donc, soit par les biais des résidences artistiques, mais aussi par des subventions pour faire des masters à l'étranger ou des stages. Si on analyse le CV des membres de l'échantillon, nous voyons que les femmes accumulent les bourses et les participations à ces programmes institutionnels, mais pas seulement en début de carrière. Comme on voit dans cet exemple, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est une plasticienne de 40 ans maintenant, qui vit à Berlin depuis 2012, et on voit que depuis sa première bourse, qui était la bourse Erasmus en 1999, elle a gagné une de ses bourses par an. Et en plus, c'est significatif aussi parce qu'elle est depuis 2012 à Berlin. Mais on voit qu'elle a continué à postuler pour des concours en Espagne alors qu'elle était déjà partie. Par contre, dans les CV des hommes, il n'y a pas toujours une rubrique pour les bourses et les prix, où soit elle regroupe les résidences et les bourses. Et on se rend compte qu'ils tendent à être plus sélectifs. Ils se concentrent sur quelques concours importants ou sur quelques résidences prestigieuses, mais ils cessent d'avoir recours à ces dispositifs plus tôt. Je tiens à dire aussi que cet artiste-là, donc c'est un homme, il a participé aussi à la Biennale de Venise, comme on l'a vu avant. Et généralement, ils arrêtent de participer à ce type de choses sur candidature quand ils obtiennent le soutien d'une galerie et leur carrière dans les marchés est lancée. Pour les femmes, en fait, elles obtiennent le soutien d'une galerie plus tard que les hommes et ces œuvres sont aussi vendues à moindre prix et exposées moins souvent, même dans les institutions. Comme on voit ici, par exemple, pour l'année 2018, on voit que la visibilité des femmes espagnoles dans les foires les plus importants à Madrid est assez restreinte. Ce n'est pas le cas pour les foires plus secondaires, mais encore, c'est des foires secondaires, donc moins prestigieuses et avec des œuvres qui se vendent moins chères. On peut penser alors que le recours au soutien institutionnel des femmes s'est fait pour compléter la visibilité et les revenus qu'elles n'ont pas sur le marché. Donc ici, encore un autre CV d'une autre artiste, aussi dans la quarantaine, et qui habite à Berlin. J'ai mis aussi les classements Artfacts, juste pour un indicateur, mais il ne faut pas oublier que dans ces classements, il y a aussi les artistes qui sont morts, donc Picasso, etc., pour les classements espagnols. Et on voit que même elle, qui est représentée par une galerie assez importante en Espagne, et qui n'est pas trop mal classée, en fait, elle gagne plus ou moins une bourse par an, alors qu'elle vit aussi à l'étranger. Donc, si on revient en arrière pour voir les tableaux avec les expériences internationales, on voit que la formation est à l'origine du projet migratoire des nombreux de membres de l'échantillon, soit à travers l'Erasmus, soit par les études de master à l'étranger. Et dans ces deux cas, les femmes sont très majoritaires. Une troisième forme de mobilité internationale qui est aussi liée à la formation sont les stages professionnels subventionnés, par exemple dans le cadre du programme Leonardo ou Erasmus+, et également pour les résidences. Donc ces dispositifs sont utiles, et c'est pour ça qu'ils sont à l'origine des nombreux projets migratoires, parce qu'ils permettent de s'insérer professionnel et socialement au début du séjour. Mais par contre, un des réquisits pour postuler à ce type de choses, sauf pour les résidences, c'est la maîtrise de la langue du pays d'accueil, en plus de l'anglais ou d'autres compétences qui soient requises pour les travaux en question. Donc les entretiens permettent de confirmer que les femmes, beaucoup plus souvent, maîtrisent l'allemand et le français avant de leur arrivée à Berlin et à Paris, alors que les hommes privilégient l'usage de l'anglais et n'apprennent la langue locale que plus tard et de manière moins scolaire. Donc, sous l'État, ils sont passés par les cours, ni passés les examens pour avoir les diplômes du DALF, etc. Et ça tient aussi à leur mode d'insertion sur la nouvelle scène artistique dans la ville de choix. Donc, parmi les enquêtés hommes, un truc qui est curieux, c'est que les projets migratoires reposent plus souvent sur un capital social à base des connaissances de la ville d'accueil qui assure l'installation et l'insertion sociale dans un premier temps. Beaucoup d'hommes de l'échantillon ont exercé au début de leur séjour, ou le font encore, un second métier dans le montage d'expositions d'art. Donc c'est un travail qui est plutôt physique, donc considéré comme masculin, qui ne requiert pas trop de compétences spécifiques, outre savoir bricoler, mais qui permet de s'aménager du temps libre pour la création, parce qu'un montage d'exposition, ça peut durer entre 3 jours et 2 semaines, et qui est susceptible aussi de fournir des contacts utiles pour la carrière artistique, parce que les commissaires d'exposition ou les galeristes vont être présents lors du montage, ça peut déboucher sur d'autres emplois, ou même, il y a des membres de l'échantillon qui ont entré en contact avec la galerie qui les représente dans l'actualité grâce à ce type d'emploi. Donc, les données recueillies permettent de montrer que les modes de gestion de la carrière artistique, articulés à un projet migratoire, sont différenciées. Tout se passe comme si les femmes mobilisaient des dispositions et des anticipations scolaires pour gérer une situation définie par l'incertitude. L'éthos des bons élèves est constitué d'un ensemble de dispositions et de compétences incorporées depuis l'école, et il s'ajuste à la fois dans la carrière artistique et dans la carrière migratoire. D'un côté, comme on l'a vu, elles sont plus diplômées. D'un autre côté, leur projet migratoire est enclenché plus souvent par un dispositif public de formation. L'installation à l'étranger et l'insertion dans la scène artistique locale va s'appuyer sur des programmes de soutien institutionnel dont la procédure de sélection est particulièrement bien adaptée à l'éthos de la bonne élève. Donc, cette sélection tend à favoriser les candidats qui sont plus qualifiés en fonction des diplômes et des compétences comme la maîtrise des langues. Elle s'associe aux réseaux artistiques locaux de leur ville de choix d'une manière plus formelle, souvent par le biais de l'emploi. Et paradoxalement, cette bonne intégration par l'emploi peut être contre-productive. Donc, par exemple, pour les cas des plasticiennes qui ont un deuxième emploi, ça va être souvent un emploi dans le secteur culturel, mais pour faire des tâches dans la médiation ou dans la gestion. Donc ça veut dire qu'elles vont avoir des horaires de bureau ou qu'elles vont devoir être présentes lors des vernissages, et ça va avoir un effet négatif sur les temps qu'elles vont pouvoir consacrer à la création ou à développer leur propre réseau lors des vernissages dans d'autres endroits qu'elles auraient choisis. Donc sur le long terme, pour nombre de ces femmes, ces emplois deviennent l'emploi principal et laissent l'activité artistique en second plan. Elle revient finalement à occuper une position subalterne dans le secteur culturel qui est plus souvent réservé aux femmes. Et en plus, dans ces emplois liés à la médiation, qu'ils soient choisis ou subis dans ces cas, et la gestion de l'art, nos enquêtés notent un plafond de verre qui n'est pas défini par le genre, mais par la nationalité. Et en fait, pour contourner encore cet autre obstacle, il y a deux enquêtés à Berlin qui ont opté pour adopter la nationalité allemande dans le but de pouvoir accéder à des programmes et des financements réservés aux professionnels autochtones. Donc on voit encore que cette éthos de la bonne élève va les pousser à avoir une nouvelle carte d'identité et encore une certification qui leur permet d'accéder à des choses qui ne leur sont pas accessibles d'emblée. Oui. Non, je vais conclure déjà. Donc pour conclure, nous pouvons dire que les femmes espagnoles actives dans le secteur de l'art contemporain qui ont pris les chemins de la migration sont surqualifiées par rapport à leur pair masculin. Et ça, c'est d'autant paradoxal dans un monde professionnel qui est caractérisé justement par l'absence de barrières à l'entrée. Si les objectifs de la migration sont les mêmes pour tous les membres de l'échantillon, quel que soit leur genre, donc l'insertion dans une scène internationale de l'art contemporain et la distinction sur la scène espagnole, des différents genres sont visibles dès la mise en place du projet migratoire et dans les modes d'insertion dans la nouvelle scène artistique, quelle que soit la ville de destination. Pour les femmes, le prolongement de la période formative de la carrière et la participation à des programmes institutionnels de soutien à la création constituent des réponses à la ségrégation des femmes dans le secteur des arts visuels espagnols. En ce qui concerne les projets migratoires des femmes, celui-ci repose également sur cette éthos de la bonne élève, malgré le fait que la mobilité intra-européenne aujourd'hui ne requiert pas de lourdes démarches administratives, autres que les coûts d'installation habituels, puisqu'il n'y a plus de visa, ni de titre de séjour à demander, ni rien de tout ça. Dans cette quête de certification des compétences et habiletés, qui semble être conséquence de l'incorporation des dispositions scolaires genrées, est en soi une stratégie de gestion de l'incertitude de la carrière. Mais c'est aussi une manière de contourner les inégalités de genre au sein du monde de l'art contemporain. Néanmoins, pour les plasticiennes, la concurrence des temps de travail et des créations, quand elles occupent des emplois qui correspondent à leur niveau de qualification, approfondit leur cantonnement dans des métiers autres que la création. Et justement, dans ces emplois de l'intermédiation, les professionnels espagnols immigrés en France et en Allemagne subissent la concurrence des candidats locaux et peuvent faire face à ces plafonds de verre en raison de leur nationalité. Donc, les femmes membres de notre échantillon risquent donc d'être doublement discriminées en raison de leur genre et de leur origine géographique, et c'est sur l'investissement scolaire et la participation récurrente aux dispositifs institutionnels représentent pour elles des stratégies de contournement de ces inégalités.
Merci. Bien, merci beaucoup. Une gestion du temps encore bien en avance, là, cette fois-ci, ce qui va nous laisser beaucoup de temps pour la discussion, ce qui est très bien aussi. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, Marie.
Merci à tous pour vos communications. J'ai une remarque-question qui s'adresse à Alain Quemin. Je trouve toujours fondamental, en effet, de s'interroger sur La manière dont les enquêtés, les individus, qu'ils soient donc des individus lambda ou des personnalités publiques, évoquent leur identité, je pense que c'est fondamental. En revanche, j'aurais tendance à distinguer très fermement la question de l'identité de genre, l'identité sexuelle, de celle de personnages qui peuvent être mobilisés par les artistes, en extension d'ailleurs dans l'espace public de leur travail, artistique. Pour donner un exemple plus précis, je pense par exemple à David Bowie, que tout le monde connaît, qui a mobilisé des personnages. Néanmoins, pour le sociologue, il est très facile d'estimer que David Bowie n'est pas son personnage, mais qu'il est un homme blanc cisgenre. Et donc, comme vous êtes passé très rapidement sur cette question, j'ai un peu pris ça à la volée, j'aurais aimé que vous reveniez, si possible, sur la distinction que vous faites entre ces différents aspects des déclarations des artistes que vous étudiez.
Bonjour, merci à tous les trois pour vos communications. Ma question est aussi pour Alain Quemin. Si je comprends bien votre raisonnement, vous essayez d'expliquer des biais dans le top 100, en tout cas dans le top des artistes de votre base de données en termes de genre, d'origine géographique et d'âge. J'aimerais savoir quelle est la base de comparaison que vous avez, en fait. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'on peut considérer que les hommes sont surreprésentés dans le top des artistes de ces bases. Ils sont surreprésentés par rapport à quoi? Par rapport à l'offre d'artistes en général, par rapport au reste des gens dans la base? Est-ce que vous avez fait des analyses par rapport à ça? Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que vous avez des analyses multivariées qui permettent de démêler un peu les effets de chacune des variables dans votre approche. Merci.
Merci à tous les trois également. J'ai une question pour Alain Quemin et une autre pour Gloria. Donc la première, en fait, est un peu à la marge de votre communication, mais je m'interroge sur l'indétermination territoriale qui est souvent mise en avant effectivement par les artistes. Si vous avez des éléments qui sont susceptibles d'expliquer ce soir, si présent. Et Gloria, alors je vais essayer de ne pas être trop confuse, mais en fait, je m'interroge sur le lien que tu évoques entre les femmes et les institutions. En fait, j'ai en tête le travail de Séverine Sofio, donc sur une période antérieure, qui parle de parenthèse enchantée, donc pour parler de la situation des femmes dans un contexte où elles sont soutenues par l'État. Et en fait, donc, si on se transpose maintenant, j'ai pas une donnée précise, mais dans mon esprit, les artistes hommes sont généralement plus subventionnés que les artistes femmes, et donc je me demandais comment tu articules, tu vois à peu près ce que je veux dire.
Merci beaucoup à tous les trois, mais j'ai une question pour Gloria. Donc tu identifies plusieurs stratégies. Est-ce que les hommes et les femmes mentionne le fait de s'expatrier comme une stratégie ou un élément de valorisation? Est-ce que les femmes parlent de leur de ce que toi tu analyses comme une stratégie par la scolarité notamment? Est-ce qu'elles le mentionnent? Est-ce qu'elles le perçoivent elles aussi comme un élément qui favorise leur insertion?
Pour vos interventions, donc j'ai une question pour Julien, une question pour Gloria. Alors, Julien, tu as conclu sur l'idée d'ambivalence, je sais pas si c'est le mot que tu as utilisé, mais tu as terminé là-dessus. J'aimerais savoir si c'est possible d'aller un peu plus loin, parce que d'un côté, si j'ai bien compris, il y a une sorte de recherche de renversement de la domination. Tu as parlé de performer une image d'émancipation, etc., de renverser les stigmates. Et d'un autre côté, tu as évoqué l'intériorisation des normes, etc. Et donc, je voulais juste savoir ce que tu retenais entre les deux, quand même. Je pense, par exemple, à ce que disait Bourdieu sur les paysans et la classe objet, au sens où ils se définissaient eux-mêmes, ils valorisaient certains traits de leurs conditions, mais par des images qui étaient renvoyées par d'autres, notamment des groupes dominants. Donc voilà, c'est juste une réflexion que j'avais par rapport à ça. Et si tu as quelques éléments, ça serait bien. Et ensuite, pour Gloria, alors c'était assez riche en termes de concepts et de notions utilisées, mais je serais juste curieux de savoir comment tu les articules. Par exemple, je note capital symbolique et capital international. Est-ce que le capital symbolique fait partie du capital international ou inversement? Et est-ce que, en quoi ça se distingue, par exemple, d'un capital, qu'on pourrait dire, spécifique des artistes, qui serait lié au fait d'avoir fait des études dans des grandes écoles, etc., mais aussi lié au désintéressement, au sens du placement, etc. Bref, voilà, est-ce que tu parlerais de capital spécifique et qui se distinguerait d'autres secteurs artistiques, etc. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est juste...
Merci à tous les trois pour vos interventions. Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous trois, en fait. Alors, je vous piochez dedans, et puis vous voyez si ça répond effectivement à ce que vous vouliez dire ou pas. J'ai le sentiment, à vous écouter à la suite, qu'il y a quand même une logique, une question d'ancrage territorial très présente dans vos trois communications, même avec des objets et des terrains très différents. Et il y a un élément dont vous n'avez pas parlé là, en tout cas, c'est peut-être présent dans votre travail, mais là, c'était pas très présent, qui était la question du sentiment d'appartenance, la question de l'attachement culturel, et voir comment est-ce que vous travaillez cette question du sentiment d'appartenance, en lien ou pas avec un ancrage territorial et géographique. Donc voilà, est-ce que vous pouvez... nous donner des éléments chacun et chacune sur cette question du sentiment d'appartenance, ce qui me fait le lien avec une autre question que j'ai qui est plus spécifiquement destinée à Alain Quemin, en lien avec ce que vous avez dit sur la dimension auto-assertive de l'ethnicité, de l'autodétermination, etc. Et à un moment, vous avez eu une formule sur le glissement du relativisme au politiquement correct, et je me demandais où est-ce que vous mettez la barrière et comment est-ce qu'on la situe. Merci.
J'ai une toute petite question concernant aussi l'extension géographique qui s'adresse à Alain Quemin également. Je voulais savoir comment vous justifiez l'approche comparatiste entre la France et le monde, sociologiquement parlant.
Pardon d'en poser une pour équilibrer un peu pour les trois intervenants à Julien. Moi, j'avais, comme tu es ethnomusicologue, est-ce que tu avais des choses à nous dire sur le style de musique? Et deuxièmement, tu as bien montré que tu montres une scène très spécifique de la côte qui s'oppose à. Et en fait, est-ce que tu as des informations à nous donner sur justement d'autres styles, les styles opposés en fait, du coup? Voilà. Et je vous laisse. Qui veut répondre en enchaînant les questions?
Merci. La première question sur Grayson Perry. Grayson Perry, quand on l'interroge, quand il fait des interviews, il dit toujours que le personnage de Claire, il ne l'interprète pas, il dit que Claire, c'est lui. Il s'habille en femme, il est marié, il a une petite fille, mais il dit qu'en termes de genre, il n'est pas un homme à temps plein qui se considère autant comme un homme comme une femme. Donc je mets vraiment, c'est très différent d'un artiste, une artiste qui interpréterait un personnage de l'autre genre. Il dit vraiment qu'il a une identité, qu'il a une identité de genre fluide, voilà, qui passe les barrières. Donc c'est pour ça que vraiment je l'ai choisi comme cas, ce qui me semblait un cas vraiment très intéressant sur lequel finalement on pourrait se poser la question. Et c'est pour ça que je le distinguais également très nettement pour l'identité donc ethnique. Du cas de Jimmy Durham, qui lui voilà, a une identité très tranchée, mais qui est fausse. Lui, je crois que c'est quelque chose de très authentique. Il explique, voilà, il est clair également. Voilà, donc ça me semblait un cas intéressant pour nous, sociologues, qui aimons bien quand même avoir des cas qu'on peut même citer à nos étudiants. Ouais. Alors, soit c'est une jeune fille ou une fillette victorienne. Alors, parfois, il interprète une Claire petite, parfois, il interprète une Claire adulte. Effectivement, et le plus souvent, il la situe dans l'époque victorienne. C'est un personnage, voilà, il y a toute une narration autour de l'identité de Claire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est constant dans l'identité de Claire, c'est que c'est une femme. Effectivement, après, son âge est quelque chose de variable, son époque est quelque chose de variable. Voilà. Donc, c'est une construction, mais en même temps, je crois vraiment que c'est quelque chose d'identitairement très fort chez Grayson Perry. Pour ce qui est, par ailleurs, donc la deuxième question qui tourne autour de la question du biais, je ne me pose pas vraiment la question en termes de biais ou en termes de, par exemple, d'analyse multivariée. Je crois vraiment qu'en sociologie, alors c'est vrai qu'il y a toujours une tentation chez nous, c'est pour nous qui sommes sociologues de l'art et de la culture, c'est ce que j'appellerais également la tentation Poetics, la revue qui adore que vous présentiez des analyses factorielles, des analyses multivariées, etc. Si vous leur présentez des choses avec du matériau quantitatif élémentaire ou avec du matériau qualitatif, ils considèrent que c'est moins bien. Je ne pense pas que ce soit moins bien ou plus efficace. Ce n'est pas forcément nécessaire de sortir l'artillerie lourde pour montrer des choses qui, là, me semblent déjà suffisamment établies avec un comptage statistique élémentaire, à savoir un déséquilibre Alors voilà, après, on peut effectivement développer une analyse théorique en termes de domination ou pas en termes de domination. En tout cas, il y a une inégalité. On sait que dans la plupart des écoles, Gloria y faisait référence, par exemple pour l'Espagne, les écoles d'art, on a à peu près 50% d'étudiants hommes, 50% d'étudiants femmes. On a souvent même un petit peu plus de femmes diplômées que d'hommes. Et on voit, quand on se situe dans tous les palmarès que j'ai observés, c'est à peu près 20-25% de femmes, grand maximum. Et on voit vraiment un plafond de verre année après année, donc il se reproduit, les femmes n'arrivent pas à aller au-delà, les institutions leur sont quand même très réfractaires, et sur le marché, c'est autour de 10%, jamais plus. Donc après, je pense que même avec des chiffres très simples comme cela, on voit qu'il y a des effets donc, qui pèsent sur les femmes de façon beaucoup plus brutale que sur les hommes. Sur l'indétermination territoriale, les artistes, en général, ils n'aiment pas trop parler de ça, parce que justement, ils vivent encore beaucoup dans l'idéologie romantique, selon laquelle ça n'aurait aucune espèce d'incidence sur la réussite. Mais ce que disait Gloria, ça se voit très bien. On voit que les artistes espagnols ont intérêt quand même à partir à Berlin ou à partir à Paris. Et on voit que les artistes français aussi ont tendance à partir à Berlin ou à partir à New York. Alors, ce qui est très drôle également par rapport justement à ces questions d'identité, par rapport au sentiment d'appartenance, on les réduit à. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un long entretien avec Marina Abramović, qui devient folle quand on lui explique qu'elle est serbe. Elle dit « Je n'ai jamais été serbe, je suis née yougoslave. » Elle est partie quand elle avait 28 ans. Et donc, ensuite, on la rabat en permanence cette identité serbe. Alors, elle en est agacée, parce qu'elle dit « Je ne suis pas serbe. » Si on voulait dire que j'étais quelque chose, j'étais yougoslave. Mais voilà, après, le pays a évolué d'une façon indépendante de ma personne. Je n'ai pas connu l'évolution historique ultérieure. Et il y a également les artistes qui en jouent énormément. L'exemple que j'aime toujours beaucoup donner, c'est Rirkrit Tiravanija. Rirkrit Tiravanija, donc, il est né en Argentine de parents thaïs et il est devenu un véritable artiste international. Mais évidemment, ça paraît complètement impossible. Dès qu'on a compris justement les formes de déterminisme qui pèsent sur les carrières artistiques, de devenir un artiste international avec ce double handicap, hein, le fait d'être une femme aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain, c'est un handicap par rapport au fait d'être un homme. Le fait d'appartenir à certains pays, c'est un handicap par rapport au fait d'appartenir à d'autres pays, eh bien, il vit dans deux pays, dans deux capitales qui lui permettent de corriger son handicap initial. Et bon, vous voyez, c'est pas très difficile à deviner. Il vit aux États-Unis, à New York, et en Allemagne, à Berlin. Mais quand il fait des interviews, il met toujours en scène son appartenance donc asiatique, sa taïté, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Voilà, donc il aime réfléchir là-dessus. Il sait aussi que c'est un élément pour être intégré au monde de l'art contemporain, de la même façon que les époux Kabakov sont toujours censés être des artistes très russes. Ils vivent à New York, à Brooklyn, depuis 30 ans maintenant. Et donc, après, c'est très difficile effectivement, de travailler sur ce sentiment d'appartenance. Je pense qu'il y a en partie une dimension chez certains, alors encore c'est difficile de voir dans quelle proportion, qui est authentique, et puis il y a également la demande du côté du monde international de l'art qui est en quête d'exotisme, sachant que par ailleurs on est extrêmement peu disposé à intégrer l'exotisme véritable. Tous ces artistes que l'on connaît et que l'on renvoie justement à l'exotisme le plus total, en général, pour qu'ils aient une très forte visibilité, et ces artistes-là auxquels je m'intéresse, avec la dimension donc, des artistes stars, ils sont tous insérés dans des réseaux qui sont fondamentalement des réseaux occidentaux, donc des réseaux très localisés, que ce soit à New York, à Berlin, à Londres ou à Paris. Voilà, donc, et la frontière entre le relativisme et le politiquement correct, je suis d'accord que c'est très très difficile à situer. Donc c'est pour ça que j'ai pris des exemples relativement simples. Dans un cas, j'étais complètement d'accord pour suivre Grayson Perry, parce que comme j'ai expliqué, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de très identitaire chez lui. Et donc il faut écouter également l'identité que s'attribuent les personnes sur lesquelles on enquête. Mais si on va trop loin dans le politiquement correct, comme j'essaie de le montrer avec le cas de Jimmy Durham, finalement, le sociologue ne peut plus rien voir, le chercheur en sciences sociales ne peut plus rien voir si les gens décident de s'attribuer n'importe quelle identité, quoi. Donc c'est difficile, et je pense également que c'est pour ça aussi que c'est intéressant de travailler sur des échantillons de taille relativement restreinte, parce qu'on peut quand même s'intéresser aux cas relativement particuliers. Quand on est quantitativiste et qu'on travaille sur des échantillons énormes, quand on a quelqu'un qui va adopter comme ça une position qui est une position totalement discutable, mais qu'on le fond dans une population dont il a des caractéristiques totalement différentes de celles qu'il s'attribue, il peut beaucoup faire bouger la moyenne, quoi. Donc ça, c'est un véritable problème. Je crois quand même que c'est toujours très intéressant de s'intéresser aux cas particuliers, de ne pas complètement les perdre de vue, de pouvoir aller voir si finalement un cas particulier ne peut pas complètement faire basculer la population à laquelle on s'intéresse.
Merci. Pour répondre à ta question, Isabelle, c'est vrai que les hommes gagnent plus de prix, ou au moins les prix les plus prestigieux. Et en fait, je n'ai pas fait mention, je n'ai pas rentré dans les détails des prix que gagnent les artistes femmes, mais souvent, c'est des prix pas très dotés en argent, dans des bourses de 1 000 ou 2 000 euros, alors que les prix nationaux, qui, pour lesquels déjà on ne candidate pas, on nous les donne par rapport à notre carrière, c'est souvent plus attribué plus souvent aux hommes qu'aux femmes. Mais s'ils ont les autres prix, les prix régionaux, les prix de la ville dans laquelle ils sont nés, ou des petites choses comme ça, pour lesquelles ils candidatent. Et ça rejoint l'autre question sur si c'est une stratégie voulue. Parce que, en fait, dans les entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui disaient que. Qui parlaient de leurs notes à l'école. J'ai toujours eu de très bonnes notes, ou je suis très bonne pour faire ce type de dossiers, des candidatures pour des bourses et tout ça. Donc, ça, c'est comme pour dire que ça ne leur coûte aucun effort de candidater à ce genre de choses. Alors que pour les hommes, qui vont être plus sélectifs à l'heure de choisir pour quel prix ou pour quelle bourse, et ça va être souvent la bourse la plus dotée, etc., il dit par rapport aux autres prix qu'ils ne vont pas perdre du temps à constituer un dossier, écrire un texte, faire un budget, etc., parce que ça, ce n'est pas leur boulot en tant qu'artiste. Ils ne sont pas des administrateurs ou des gestionnaires. Alors que pour les femmes, ça ne pose aucun problème de passer leur vie à faire ce type de dossier. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est une stratégie voulue d'être une bonne élève, mais en tout cas, c'est une évidence vu les résultats. Et ça se voit aussi, je n'en ai pas fait mention parce que je pensais que je n'allais pas avoir du temps, mais ça se voit dans les couples que j'ai dans mon échantillon, c'est 4 ou 5 couples où en fait, même en les interrogeant séparément, ils peuvent te dire, on avait décidé les deux ensemble qu'on voulait partir à Berlin, donc on a candidaté à plein de choses, et au final, c'est toujours la femme qui a été prise dans ses masters, qui a obtenu la bourse pour les faire, donc c'est elle, parce qu'elle parle la langue, tout ça, qu'elle va chercher l'appartement et le trouver, s'occuper des gestions d'EDF, en plus faire son master, rentrer dans les réseaux académiques, et l'homme à côté qui va profiter de tout ça sans avoir rien fait. Enfin, je ne veux pas faire ça comme si c'était une critique, mais, mais on voit que c'est souvent le cas dans les couples, en fait. Et puis pour la question du sentiment d'appartenance, en fait, je m'étais déjà intéressée à cette question et c'est un article qui va paraître début 2019 dans la revue Sociologie de l'art où, en fait, pour les Espagnols qui sont partis, donc pas pour ceux qui restent, être vu comme un artiste espagnol, ça fonctionne plutôt comme un stigmate. Et en fait, ils vont plutôt se définir comme artiste basé à Berlin ou artiste qui vit à Paris ou tout court artiste international que comme artiste espagnol parce qu'ils trouvent que c'est... que c'est ringard et que justement ils ne sont pas partis de l'Espagne pour être rabaissés tout le temps à leur origine. Et puis la dernière question sur les capitaux. En fait, je disais capital symbolique un peu en général. Et puis les capitales internationales, en fait, c'est un capital spécifique qui va fonctionner que sur la scène espagnole. Parce que d'avoir beaucoup voyagé, sur la scène internationale, tous les artistes plus ou moins reconnus font ça. Donc, j'ai peut-être pas été très claire avec les choses, mais oui, je ne l'utilise pas comme un synonyme.
Merci pour vos questions. Alors, je vais essayer de répondre à peu près à toutes le mieux possible. Alors, effectivement, je ne suis pas sociologue, je suis ethnomusicologue, nobody's perfect, mais ça peut aussi avoir des avantages, ou au moins, notamment de ne pas être gêné par les identités autodéfinies ou des catégories qui sortent des cadres. Alors, sur l'ambivalence ou le paradoxe, rapport de domination versus agentivité, etc., oui, je pense que c'est une... c'est un questionnement qu'on doit avoir quand on s'interroge sur le monde contemporain, évidemment, et c'est un questionnement qui existe aussi bien, qui doit être porté aussi bien du point de vue des acteurs, de ces musiciens, de ces chanteuses, qui sont prises entre plusieurs espaces, prises entre plusieurs mondes, prises entre plusieurs normes et codes, et qui jonglent avec ces espaces, ces normes, et ces normes renvoient à des histoires différentes, sont appropriées de façon différente, et ça renvoie bien sûr d'une part, elles se sont des stars donc, qui utilisent les médias, des vidéoclips, de musique populaire, des stars, et donc elles sont prises également dans des systèmes marchands dont les normes sont celles qu'on connaît, sont les normes du marché capitaliste international, et en même temps, elles sont prises aussi dans des imaginaires et dans leur posture, dans la mobilisation qu'elles font de leur corps. Elles sont prises dans une histoire, dans une histoire des imaginaires coloniales, évidemment, de la femme noire ultra-sexualisée, rythme dans la peau, etc., etc. Et en même temps, elles sont prises, et ça rejoint la question de l'ancrage territorial, dans des espaces très définis où ces mêmes codes sont mobilisés comme des codes culturels côtiers, par opposition à l'échelle malgache, là, par opposition aux normes dominantes mères de la capitale, qui les ont historiquement stigmatisées parce qu'elles étaient sauvages, sexualité débridée, etc. Et donc, en devenant star, et en se branchant surtout, en branchant cette noirité négative sur des sur une blackness mondialisée de type Beyoncé, hip-hop, etc., ben, elle renverse le stigmate. Mais est-ce qu'elle le renverse ou est-ce qu'elle le renforce? C'est toute la question, et cette question, elle la vive au quotidien sans arrêt, mais le chercheur, il me semble, doit aussi se la poser sans arrêt, puisque en adoptant une posture trop ethnographique, trop culturaliste, on a tendance à légitimer et à donner sens à toutes ces pratiques et à les voir uniquement comme de l'empowerment ou de la gentilité, mais alors qu'en prenant du recul et en essayant de dans un phénomène mondial plus général, ben, évidemment, on est obligé d'avoir un regard critique et donc de sans cesse naviguer entre ces deux postures. Mais je ne peux pas faire une réponse trop détaillée parce que c'est une des difficultés, c'est qu'on est dans plusieurs mondes, univers très complexes qui se déploient, mais j'espère que c'était à peu près clair. On est aussi là dans le... Oui, dans le territoire et dans le flux, de notions qui sont souvent opposées dans les théories de la mondialisation, et je crois qu'il ne faut pas les opposer. Le territoire, en tout cas sur mon terrain, existe bel et bien, et ces musiciens, ces stars que vous avez vues, ne peuvent exister sans le territoire, parce que c'est là qu'elles puisent leurs ressources esthétiques. Là, je branche aussi la question de l'ethnomusicologue, de l'ethnomusicologie. C'est de là qu'elles puisent leurs sources musicales, esthétique, comme on pourrait appeler en l'enlevant de tout le côté essentialiste, hein, mais la notion de terroir, pour parler vite et mal, pourrait donner une image de ce que représente l'espace de la région à Madagascar, des sous-régions, donc la musique Saleg du nord de Madagascar, la musique Tsapik du sud de Madagascar. Chaque musique est identifiée à des espaces bien précis et bien ancrés dans des pratiques rituelles fortes, dans une histoire, dans des distinctions. Et cet ancrage territorial doit être dépassé par ces stars qui naviguent à l'échelle nationale, et donc ça passe par une fine mobilisation de codes esthétiques, et c'est ce que j'ai appelé ces compatibilités, c'est pas très joli, mais ces concordances musicales que ces musiciens arrivent à mobiliser, ont l'art de mobiliser, en piochant des ressources musicales du terroir, donc, qui font sens toujours dans le terroir, parce que c'est ce qui leur permet de manger, hein, de se nourrir. L'essentiel des revenus que ces musiciens obtiennent se fait par des tournées sans interruption à l'échelle de Madagascar. Et donc, elle mobilise des traits esthétiques, rythmiques ou autres, là, je ne peux pas rentrer dans le détail musicologique, mais qui fonctionnent aussi bien dans ces univers locaux que à l'échelle, par exemple, des figures rythmiques qui superposent une grosse caisse, je vais prendre l'exemple le plus simple, une grosse caisse répétitive, poum, 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 avec dans une polyrythmique qui superpose à ce rythme binaire des formule ternaire, et qui forme une polyrythmie très complexe qui est prisée et qui fait sens esthétiquement dans le contexte régional, et qui est un signe identitaire, marqueur, rythmique, etc. En gommant la partie ternaire, la partie qui fait sens dans l'échelle locale, un petit peu par le son, par la sonorité, et en insistant sur le poum, 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 plus en remplaçant l'accordéon par des synthétiseurs et des sons électroniques, elles peuvent trouver un compromis musical, une concordance entre le sens régional local et des musiques comme les musiques électro, donc plus branchées ou coupées, décalées, etc., etc. C'est juste un exemple. Alors, donc il y a sans cesse un va-et-vient entre le territoire et le flux, puisque elles sont aussi repérées à l'international par la diaspora pour aller jouer en France, à La Réunion, à Mayotte, par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Et donc là, ce jeu sur les deux échelles est essentiel. Et si elles vont trop dans un sens, elles perdent leur public, entre guillemets, le mot public n'est pas adapté, mais malgache, c'est-à-dire elles ne seront plus appelées par les organisateurs de cérémonies en brousse, etc. Et inversement, si elles restent trop dans les codes locaux, ben elles peuvent pas sortir de Madagascar. À quoi s'opposent ces musiques? Là aussi, ça, c'est une vaste réponse, parce que Madagascar fourmille énormément de musique prise à des échelles différentes, allant des pratiques traditionnelles et rituelles très multiples à l'échelle de Madagascar, mais dans le champ des musiques populaires ou diffusées à la télévision, elles s'opposent à l'inverse. Enfin, à l'inverse dans ce que j'ai essayé de démontrer, c'est-à-dire des figures de danse non sexualisées, des musiques douces, beaucoup plus proches de rythmes occidentaux ou blancs, si on peut dire, pour parler vite. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont omniprésentes dans l'espace médiatique, à la télé malgache, sur les chaînes nationales, à la radio et dans les vidéoclips. Omniprésentes, ces musiques. Et donc, c'est une forme de pouvoir qui vient en contraste avec le pouvoir économique, politique et historique malgache. Et ça gêne. Et donc, du coup, il y a des revendications des musiciens de la capitale, des maires. Oh là là, quand même, il n'y a que des... Et là, resurgissent tous les stéréotypes blanc, noir, civilisé, sauvage, etc. etc. Je ne veux pas être trop long et mobiliser la parole, donc je m'arrêterai là. Mais s'il y a d'autres questions, on pourra développer... off.